Le Seigneur ne change pas, il est celui qui est fidèle et nous n'en doutons pas un seul instant. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire un premier verset d'introduction dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 et en suivant, nous irons dans l'Évangile selon Jean. Romains 12. Romains chapitre 12 et nous lirons ensemble le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Nous allons maintenant dans Jean chapitre 2, l'Évangile selon Jean chapitre 2, et nous commencerons notre lecture à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. J'aimerais ce matin aborder avec vous le sujet du zèle de la maison de Dieu, dont il est question ici, dans ce passage de l'Évangile selon Jean et dans Romains. Le mot zèle aussi, nous l'avons lu tout à l'heure, ayez du zèle, et non de la paresse. La paresse étant l'opposé du zèle, la paresse avec toutes les nuances qu'elle peut avoir, on pourrait parler de la nonchalance, on pourrait parler de la négligence aussi. Je ne sais pas comment vous percevez cet événement de l'Évangile où Jésus a fait un fouet avec des cordes et a chassé tous les vendeurs qui se trouvaient là et qui faisaient du trafic, c'était Pâques. Et à l'occasion de Pâques, il y avait des sacrifices qui étaient offerts et il fallait donc que les gens achètent des pigeons, des brebis et des bœufs. Et ça allait fort en négociation. Nous avons vu un peu cela lorsque nous étions en Tunisie à la fin du Ramadan. Vous savez, il y a le sacrifice qui est fait, et sur les bords des routes, il y a des troupeaux de brebis avec les bergers, les vendeurs de brebis qui, là, ils s'appalabrent, ça discute le prix pour après offrir en sacrifice l'animal qu'ils ont acheté. Donc, il y a beaucoup de négociations qui sont faites à ce moment-là. Et là, donc, c'est un petit peu l'ambiance qui régnait à Jérusalem et dans le temple. Comment percevons-nous cet épisode de l'Évangile, surtout qu'il semble qu'il y ait eu 2 fois cet épisode. Certains commentateurs des Évangiles disent qu'il y a eu 2 fois, puisqu'ici, donc nous sommes au début du ministère de Jésus. Jésus a fait son premier miracle, qui est l'eau changée en vin, et il monte à Jérusalem pour la fête de Pâques, tandis que dans les autres évangiles, on voit que lorsque Jésus chasse les vendeurs du temple, c'est à la fin de son ministère. À la fin de son ministère, lorsqu'il monte à Jérusalem, lors de la dernière Pâque, qu'il passera avec ses disciples, d'autant qu'il y a quelques nuances dans les deux récits. Donc, en fin de compte, ce n'est pas vraiment important qu'il y en ait eu une, même si on peut supposer qu'il y ait eu deux épisodes similaires. Mais ce qui retient notre attention, quand même, c'est l'énergie, j'allais dire la vigueur avec laquelle Jésus a chassé les vendeurs du temple, jusqu'à se faire un fouet avec des cordes. Ça nous étonne. Celui qui est doux et humble de cœur a fait un fouet avec des cordes et a chassé avec beaucoup de vigueur les vendeurs du temple. Celui qui nous enseigne de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, celui qui nous enseigne le pardon jusqu'à 7 fois 70 fois, a aussi chassé les vendeurs du temple avec un fouet. Celui qui nous enseigne l'accueil, la miséricorde envers le plus coupable, celui qui est allé loger chez un homme pécheur comme Zachée, celui qui a laissé une femme prostituée l'approcher, celui qui a accueilli les gens de mauvaise vie, est aussi celui qui a fait un fouet avec des cordes et a chassé les vendeurs du temple. Celui qui, par amour pour chacun d'entre nous, est monté sur la croix afin de nous sauver de la colère à venir et de nous donner une expérience extraordinaire, est aussi celui qui a fait ce fouet avec des cordes pour chasser les vendeurs du temple, et de citer un psaume prophétique de David, qui est le psaume 69, excusez-moi, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Jésus a fait un fouet avec des cordes. Cet objet du fouet symbolisait l'autorité. D'ailleurs, dans les autres évangiles, par rapport au même événement, les scribes, les pharisiens ont dit à Jésus, mais par quelle autorité tu fais ces choses? Et ici, il est écrit, par quel miracle? Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Mais oui, mais par quelle autorité Jésus fait ces choses? Si je vais chez vous, et que chez vous, dans votre maison, il y a quelque chose qui ne me plaise pas, il ne me viendrait pas à l'idée de prendre un balai et de tout mettre dehors. Si, en tout cas, l'idée me vient et que j'aurai l'audace de le faire, je pense que vous allez me tirer un petit peu les oreilles en me disant « Oh, tu n'es pas chez toi ici. » Ça, j'ai le droit de le faire chez moi, parce que j'ai autorité, comprenez, dans ma maison. Par quelle autorité Jésus fait ces choses ? N'est-ce pas la maison de son père? N'est-ce pas la maison de son père? Jésus a fait cela avec beaucoup d'attachement pour la maison de son père. Ces choses-là n'auraient jamais dû se faire. Et nous savons malheureusement dans l'histoire du temple de Jérusalem qui avait été construit, détruit, reconstruit, il y a eu toutes sortes d'abominations qui se sont passées. Comme quoi l'histoire se répète, ne sert pas de leçon à certains, et les sacrificateurs ont laissé faire des choses, ont été négligents, nonchalants, et ont laissé faire ce trafic dans le temple de Jérusalem. Jésus, donc, a fait ce fouet avec des cordes et a chassé avec beaucoup de vigueur les vendeurs du temple, les brebis, les bœufs, il a renversé les tables. Et ses disciples se sont souvenus qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est un zèle d'amour et nous reparlerons tout à l'heure le lien évident qu'il y a entre le zèle et l'amour. Mais rappelons quand même que sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. D'ailleurs, le temple de Jérusalem n'est plus. Il sera probablement reconstruit, mais ça, on ne va pas en parler ce matin. Jésus va d'ailleurs, juste après l'intervention de certains qui sont choqués de l'attitude de Jésus, lui demandant « Mais quel miracle fais-tu pour agir de la sorte ?» Il aurait pu dire « Oh bien, je viens de changer l'eau en vin. » Non. « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Et Jésus parlait bien sûr du temple de son corps. Il est ressuscité, que Dieu soit béni. Nous savons aussi que l'Église est le corps de Christ. Nous savons aussi que nous sommes, comme dit l'apôtre Paul, gens de la maison de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le peuple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et nous connaissons l'attachement que Jésus a pour sa maison. Sa maison, c'est nous. Et c'est lui qui a autorité sur cette maison. C'est lui, Jésus, qui a tout pouvoir sur cette maison. Il en est le souverain chef. Et il a donc tous les droits sur sa maison. Et il peut aussi, par attachement pour sa maison et par amour pour sa maison, montrer beaucoup de zèle aussi pour enlever quelque chose qui, dans sa maison, constitue un scandale. Après avoir parlé de l'exemple de Jésus qui nous montre ce qu'est le zèle et ce que peut produire le zèle, ce zèle de sa maison qui le dévore, qui le consume, parlons du zèle qui nous concerne. Et pour cela, il m'a semblé intéressant de voir les termes synonymes dans la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 12, il est question du zèle. Et le zèle a pour synonyme être fervent, bouillir, être fervent, bouillir, comme l'ardeur d'un feu, comme l'ardeur d'un feu. C'est ainsi, en fin de compte, que nous voulons servir le Seigneur. L'Église de Laodicée avait perdu cette ferveur. Non seulement l'Église de Laodicée, mais on pourrait parler aussi de l'Église d'Éphèse. « Tu as abandonné mon premier amour. » Voilà une église qui était capable de réfuter les faux docteurs. Une église qui était capable encore de bonnes choses. Mais qui n'avait plus ce zèle ou qui l'avait perdu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus ce premier amour. Et quand on étudie l'histoire de l'église d'Éphèse qui a commencé dans les Actes des Apôtres, on voit comment ils se sont convertis à Dieu en abandonnant ces idoles et en se tournant massivement vers le Seigneur. Mais au fil des années, des décennies, eh bien, ils ont perdu cette ferveur, ils n'ont pas su alimenter ce feu pour Dieu. Alors nous voulons avoir un certain enthousiasme, une certaine passion pour le Seigneur et pour son œuvre. Un autre terme qui est apparenté dans la parole de Dieu, c'est l'empressement ou s'efforcer. D'ailleurs, efforcez-vous, quand il est écrit dans Hébreu, efforcez-vous, c'est le même terme en grec qui a donné le terme de zèle. Efforcez-vous. Donc on voit qu'il y a là quelque chose, une certaine énergie à avoir, un certain effort à apporter. Il y a d'autres termes encore qui sont apparentés comme « avoir soin » ou « s'appliquer ». Quand, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « aspirer aux dons spirituels ». On a étudié ensemble, les mardis soirs, les dons spirituels, et l'apôtre Paul nous dit « d'aspirer aux dons de l'Esprit ». Et c'est intéressant de noter que, en grec, c'est le mot « zèle » qui est là, qui a été traduit dans certaines versions par « aspirer ». Mais d'ailleurs, d'autres versions ont traduit « pour les dons spirituels, soyez plein de zèle ». Ayez du zèle pour les dons spirituels. Donc on voit que cette aspiration, c'est bien plus qu'un souhait. C'est bien plus que cela. C'est une recherche active. C'est une pratique que l'on veut pour l'Église parce qu'on reconnaît la nécessité de ces dons de l'Esprit. D'autres termes encore apparentés comme la bonne volonté. Il nous est parlé de la bonne volonté dans le Nouveau Testament Et là encore, c'est le même mot qui revient. Donc ces termes apparentés, ces termes synonymes dans la parole de Dieu nous amènent à comprendre un peu mieux ce qu'est le zèle. Mais bien sûr, parfois en voyant aussi leur contraire, cela nous aide aussi à comprendre ce qu'est le zèle. J'aimerais avec vous lire dans 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 3. Au premier abord, en lisant ce verset, on peut dire, mais il n'est pas question de zèle. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Il faut quand même un certain zèle pour distribuer tous ses biens aux pauvres. Allez, on va vider tous notre compte en banque, tout ce qu'on a chez nous, on va le vendre, et on va le donner aux pauvres. Il faut quand même le faire. Il faut un certain zèle pour le faire. Il faut un certain zèle pour livrer son corps, même pour être brûlé. On pourrait, voilà, aller jusque-là. Mais si ça n'est pas le produit de l'amour, cela ne sert à rien. Vous savez, on peut avoir du zèle sans amour. On peut avoir du zèle sans amour, mais le bon zèle est produit par l'amour. C'est un produit de l'amour. Et si Jésus a fait cela, c'est qu'il était attaché, c'est qu'il aimait la maison de Dieu. Il aimait la maison de Dieu. Il était attaché à la maison de Dieu. Mais un zèle qui est sans amour est un zèle qui va commettre des excès, et en plus ces excès-là ne serviront à rien. Paul, parlant de ceux de sa nation, dira, mais ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. En effet, on ne pouvait pas dire le contraire. Ils avaient du zèle pour Dieu, comme aujourd'hui, certains ont du zèle pour Dieu. Ils ont du zèle pour Dieu. Et il y en a même qui sont capables des pires atrocités au nom de Dieu. On voit qu'ils ont un zèle pour Dieu. C'est un zèle excessif, un zèle fanatique. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira pour lui-même avant sa conversion. Il dira, j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais ce zèle-là était un zèle sans amour. Et ce zèle-là commet des atrocités. Ce zèle-là commet beaucoup de fanatisme. Un zèle qui n'est pas éclairé. Un zèle fanatique. Et c'est de ce zèle-là qu'était animé l'apôtre Paul avant sa conversion, jusqu'à mettre... Il écrit qu'il ravageait l'Église. Il mettait en prison les chrétiens, il ravageait l'Église. Dans son zèle. Donc on peut avoir beaucoup de zèle. Les témoins de Jéhovah ont du zèle. Prenez, ils ont du zèle. On ne peut pas leur enlever ça. Il y a beaucoup de gens qui ont du zèle pour Dieu. Mais est-ce que c'est un zèle intelligent? Est-ce que c'est un zèle qui vient de l'amour? L'apôtre Paul dira même que le zèle qu'ils ont pour vous est impur, dans Galates. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui trafiquaient, qui manipulaient les autres, par cupidité, parce qu'ils voulaient retirer d'eux un certain intérêt. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de gens qui manipulent les églises. Il faut le dire comme... Ils ont un zèle impur. Ils le font pas pour... Le Seigneur, ils ne le font pas pour l'intérêt de l'Église, ils le font pour leur propre intérêt. On peut avoir du zèle pour ses propres intérêts. Jacques, dans son épître, parle du zèle amer. On étudie en ce moment, le mardi soir, l'épître de Jacques, et dans le chapitre 3, il parle d'un zèle amer. Un zèle amer. On peut donc avoir du zèle sans amour, sans intelligence, un zèle impur, un zèle excessif, qui ne produit rien ou qui produit ici, malheureusement, des mauvaises choses. Mais ce n'est pas de ce zèle-là que Jésus était animé. Jésus était animé d'un zèle réfléchi, d'un zèle qui vient d'un cœur pur, d'un zèle qui vient d'un cœur aimant, un zèle qui vient d'un cœur fidèle à Dieu. Et nous voulons aussi, nous, avoir ce zèle-là dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, c'est après les Corinthiens. Galates chapitre 4, on peut peut même lire le verset 17 que je citais tout à l'heure. Le verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Amen. Pas seulement quand je suis présent. Alors ça me fait toujours un peu sourire. Vous savez, c'est comme dans les entreprises, quand il y a le patron qui arrive dans l'endroit où travaillent les ouvriers, de suite, chacun s'active, puis dès qu'il tourne le dos, hop. Alors l'apôtre Paul dira, c'est bien d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mais en tout cas, il y en a un qui est tout le temps présent parmi nous, et c'est le Seigneur. Il est beau d'avoir du zèle, et nous voulons avoir ce zèle qui animait notre Seigneur Jésus, qui animait l'apôtre Paul, qui animait ses disciples-là, qui aimait le Seigneur, ce zèle qui est produit par l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes. Et quand on a un fardeau pour les âmes, cela produit du zèle pour eux. On ne regarde plus alors à son temps, on ne regarde plus à la dépense, parce qu'il y a là un fardeau pour les âmes, alors cela produit beaucoup de zèle. Il est beau d'avoir ce zèle-là. Ce zèle commence à la repentance, ce zèle qui vient d'un cœur bien disposé, ce zèle qui vient de l'Évangile. L'apôtre Paul nous parle de revêtir les chaussures, de mettre à nos pieds les chaussures. Il parle de ce zèle de l'Évangile de paix. C'est vrai que l'Évangile, voilà, parce que on est porteur d'une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle qu'on a, on est porteur d'une bonne nouvelle. Et cela produit en nous beaucoup, beaucoup de zèle. J'aimerais citer un autre exemple dans la parole de Dieu. On va s'arrêter un peu sur cet exemple. Dans 2 Chroniques, chapitre 35, verset 1er, Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on immola la Pâque le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Et c'est cette dernière phrase, partie de phrase, qui a retenu mon attention pour nous ce matin, c'est que Josias a encouragé les sacrificateurs au service de la maison de l'Éternel. Josias était attaché à la maison de l'Éternel. Lui aussi avait du zèle pour la maison de Dieu. Quand on regarde le parcours de Josias, il est tout à fait fabuleux. Josias est devenu roi à l'âge de 8 ans. La venue de ce roi avait été annoncé quelques siècles auparavant par un prophète, même son nom, et c'est très rare que le nom de quelqu'un soit cité, avait été annoncé par ce prophète-là. D'où vient ce Josias? Le grand-père et le père de Josias furent probablement les pires rois que le royaume de Juda a pu connaître. Son grand-père, son règne a duré très longtemps, 52 ans, si je ne me trompe pas, 52 ans de règne. Il s'appelait Manassé. Ça vous dit quelque chose, Manassé? Certainement le pire roi d'Israël, le pire. Manassé a commis les pires abominations. Un homme immoral, un homme impie, qui a été jusqu'à sacrifier des enfants aux idoles. Il a commis des abominations. Même s'il s'est repenti à la fin de sa vie, le mal était fait. Son fils Amnon n'est pas resté longtemps roi, il restait que 2 ans, mais il a marché dans la même conduite. Ça a été un roi déplorable, qui a fait des choses abominables. Et on peut dire que ce jeune Josias a grandi dans cette ambiance-là, dans une ambiance immorale, dans une ambiance impie, où on ne craignait pas Dieu, où l'on sacrifiait des enfants aux idoles. Il a grandi vraiment au sein de ces abominations et j'allais dire, tout logiquement, il aurait pu suivre lui aussi cette voie-là. Il n'avait vu que ça, il ne connaissait que ça. Josias est devenu roi à l'âge de 8 ans parce que son père est mort prématurément. Mais au lieu de suivre la voie de son grand-père et de son père, Josias a marché dans la crainte de Dieu. Josias a suivi les voies de Dieu. Alléluia. Et ça, je ne sais pas, mais je trouve ça tout à fait extraordinaire. Parfois, c'est vrai, on est là, on se lamente parce qu'on voit notre génération qui s'éloigne de Dieu, notre génération qui devient décadente. Mais l'exemple de Josias, si on pourrait en trouver d'autres, me remplit en tout cas moi plein d'espoir pour notre génération, plein d'espoir pour les enfants qui aujourd'hui grandissent dans un contexte similaire, pour les enfants qui grandissent dans un contexte où l'on critique, où l'on se moque des choses de Dieu, où on blasphème le nom du Seigneur, où il y a des abominations qui sont commises aujourd'hui, où le péché pullule partout. On pourrait déprimer et dire, ben, nos enfants, ils vont se laisser aller. Mais non, il y a des Josias. Alléluia. À moi, ça me bouleverse et ça me donne plein d'espoir. Et cet espoir produit du zèle. Vous voyez, cet espoir produit zèle. L'espoir produit du zèle. Et nous savons qui est notre Dieu. Nous savons qui est notre Dieu. Du sein de ces ténèbres, il peut faire jaillir la lumière. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et cet espoir que nous avons en notre Seigneur produit du zèle pour notre génération nous amène à servir le Seigneur auprès des enfants, auprès des jeunes, auprès de toutes les générations, sachant que Dieu est grand pour toucher leur cœur malgré le contexte dans lequel ils vivent. Alléluia. Ça nous donne de l'espoir et ça nous donne du zèle. Et non seulement ça, mais Josias a encouragé, c'est-à-dire que vraiment il a demandé à ses sacrificateurs à avoir du zèle pour la maison de l'Éternel. Ils en avaient besoin de cet encouragement. Parce que les deux rois précédents, il valait mieux pas qu'ils s'opposent à eux. Si un sacrificateur avait osé dire à Manassé ou à Amnon, c'est pas comme ça qu'on doit faire dans le temple, parce qu'ils avaient fait rentrer dans le temple toutes sortes d'abominations, les sacrificateurs, certainement qu'ils auraient été à l'échafaud. Ils auraient été tués. Donc on peut comprendre que ces sacrificateurs étaient peut-être prudents et ne montraient plus de zèle. Et c'est vrai que quand la peur est là, la peur étouffe le zèle aussi. La peur bloque le zèle. Mais Josias, étant touché dans son cœur par le Seigneur, a encouragé les sacrificateurs au service de la maison de l'Éternel. Et cet encouragement, il est pour nous tous ce matin. Le Seigneur nous encourage au service de la maison de l'Éternel. Oui, elle est belle, sa maison, et sa maison, c'est nous. Alléluia. Montrons du zèle pour la maison du Seigneur. Cette maison que le Seigneur veut construire, cette maison que le Seigneur veut bâtir, et il veut la bâtir avec nous, nous utiliser pour cette maison. Le Seigneur montre beaucoup de zèle pour sa maison. Il montre beaucoup de zèle pour bâtir sa maison. Et nous voulons participer à cela. Je citais tout à l'heure l'exemple de Laodicée, et nous savons qu'elle était ni froide, ni bouillante, elle était entre les deux. Et qu'est-ce que va lui dire le Seigneur après lui avoir fait certains reproches? D'ailleurs, avant de vous dire ce que le Seigneur a dit à cette église, là on voit encore que le Seigneur a autorité sur son église. De la même manière que le Seigneur a pris un fouet pour chasser les vendeurs du temple, parce qu'il avait autorité pour le faire, c'était la maison de son père, de la même manière, il a autorité sur son église. Et on voit dans le livre de l'Apocalypse que le Seigneur va faire des reproches à plusieurs églises, à 5 d'entre elles, 5 sur les 7. Donc on peut voir aussi que par sa parole, le Seigneur a montré du zèle pour ces églises-là, en voulant ôter de ces églises les choses qui n'allaient pas. Et pour l'église Laodicée, Le Seigneur va lui reprocher certaines choses, mais c'est pas pour détruire cette Église qu'il le fait. Au contraire. Puisque après, le Seigneur va lui dire « Aie donc du zèle et repens-toi ». La recommandation du Seigneur, elle est double. « Aie donc du zèle et repens-toi ». Et il commence en lui disant « Mais ayons du zèle ». Parce que, en fin de compte, cette Église était devenue nonchalante, voilà. J'ai besoin de rien. Voilà, une Église qui s'auto-suffisait elle-même. Je me suis enrichi, etc. Voilà. Elle avait besoin de rien, cette Église. Mais elle avait oublié que sans Dieu, elle n'est rien. Elle avait oublié que sans le Seigneur, elle n'est rien. Et donc, du zèle, le Seigneur l'invite à ce moment-là à tout à nouveau à se consacrer pleinement à lui et à se repentir. Nous voulons être animés de ce zèle-là. Que le Seigneur vraiment touche notre cœur afin que nous puissions être animés de ce zèle qui est produit par l'amour, de ce zèle qui est produit par l'espoir. Non pas un zèle excessif, non pas un zèle irréfléchi, non pas un zèle fanatique, mais un zèle qui provient de l'amour, un zèle qui provient de l'espérance. Même si ce zèle-là qui est pur peut paraître aux yeux des autres comme une folie. Ça peut paraître une folie, hein. Et oui, parce que la consécration peut ne pas être comprise par certains. Non mais, il n'est pas bien. Je citais, il y a quelques dimanches en arrière, l'exemple de Pierre Valdo, qui a fait ce que Jésus demandait au jeune homme riche, tout ce que tu as, tu le vends, tu le donnes aux pauvres et tu me suis. Et c'est ce qu'il a fait, lui. Donc, voilà, il faut du zèle quand même pour faire cela. Et ça peut paraître une folie. Mais là, eh bien, il l'a fait avec un cœur qui a été attaché au Seigneur, avec un cœur qui était plein d'amour. Comment expliquer, ça peut paraître fou, que certains hommes, certaines femmes partent dans certains pays au péril de leur vie pour servir le Seigneur? Ça peut paraître une folie. Il faut du zèle pour le faire. Et le zèle peut sembler aux yeux des autres comme étant une folie. Mais on n'est pas à la place des autres et on n'est pas dans leur cœur pour savoir. Par contre, nous voulons prier pour eux, pour les soutenir, et que Dieu leur communique toute sa sagesse afin qu'ils gardent un zèle plein d'intelligence. Mais pour chacun d'entre nous, eh bien, puissions-nous servir le Seigneur avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'espoir, sachant que notre Seigneur ne change pas, il est toujours le même, que son nom soit glorifié. Alléluia. Oui, la maison du Seigneur, elle est belle, et nous voulons servir le Seigneur dans sa maison. Amen. On va ensemble prier le Seigneur Jésus. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui as autorité sur ton Église. Et tu peux faire ce que tu veux dans ton Église. Nous voulons, Seigneur, être attentifs à ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous voulons montrer beaucoup de zèle, beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour ton œuvre. Beaucoup d'enthousiasme, Seigneur, beaucoup de ferveur, et bannir de nos craintes la paresse, bannir de nos cœurs, Seigneur, la négligence, la nonchalance, pour nous attacher pleinement à toi, Seigneur. Nous voulons avoir ce zèle que tu recommandes avoir à l'Église de Laodicée, nous voulons avoir ce zèle, ne pas abandonner notre premier amour. Que ce feu, vraiment, Seigneur, puisse continuer à brûler dans notre cœur. Que ce fardeau pour les âmes puisse être toujours présent en nous. Et que ce fardeau nous pousse à aller vers l'autre, à aller vers les autres. Ô Seigneur, merci, parce qu'un jour, toi, tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Dans ton amour, tu as eu beaucoup de zèle pour nous. Cet amour t'a conduit à la croix, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen.